Bonjour Florian, dans le cadre d'une étude, nous souhaitons recueillir votre avis et vos impressions à propos des marques, de leur image, mais aussi de leur discours. Je tiens à vous prévenir, il n'y a ni bonne ni mauvaise réponse, il n'y a que votre avis qui compte. Et afin de pouvoir procéder aux analyses souhaitées, cet entretien sera enregistré sur le petit dictaphone juste en face de nous, sachant qu'il restera absolument anonyme et confidentiel. La première question, c'est est-ce que vous pouvez me citer une marque que vous aimez beaucoup? Par exemple, votre marque préférée.
Bah alors, bonjour, merci. Des marques, bah j'en ai plusieurs en tête. J'aime bien Eden Park pour les vêtements, j'aime bien Mercedes pour l'automobile, j'aime bien Sony pour la nouvelle technologie. Carrefour, hein, est une marque qui vaut ce qu'elle vaut. Et je dirais que la plus importante à mes yeux, ça reste Apple.
C'est Apple, d'accord.
Ouais.
Et pourquoi vous aimez cette marque, Apple?
Pour plein de choses, mais pour c'est un produit facile d'utilisation, j'ai envie de dire, c'est la première chose qui me vient en tête.
Et si vous deviez citer d'autres qualités pour cette marque, quelles seraient-elles?
La fiabilité du produit.
La fiabilité,
Ouais.
très bien. Concernant les aspects que vous aimez le moins chez Apple? Ou même ses défauts, lesquels ce serait?
Bah déjà le premier qui me vient à l'esprit, ce sera le prix excessif de tous les produits.
Le
La
prix
gamme de...
excessif?
Ah oui, la gamme de produits est excessivement
Ah,
chère.
vous la trouvez très chère.
Oui, ça va.
Malgré cela, ces prix excessifs, est-ce que vous avez des produits Apple?
Ah oui, j'en ai quelques-uns, oui.
Comme ça, vous en avez combien?
Comme ça,
Ouais.
2, 5, ouais, je dirais une douzaine, une bonne douzaine.
Une douzaine?
Ouais.
Ah oui.
Ouais. Depuis le début, une douzaine, ouais, depuis le début. Parce qu'en fait, après, on les jette pas parce que bon, on s'y attache. Même si on s'en sert plus, malgré qu'elle fonctionne toujours, mais avec l'obsolescence du produit, bon, bah, elle reste sur une étagère, en se disant qu'un jour, elle vaudra de l'argent, même si elle viendra sûrement rien d'ici peu, quoi.
Parmi donc ces 12 produits en question, lequel est votre préféré?
Alors ça, c'est difficile, hein, parce que je les aime tous. Je sais pas. Je dirais que mon préféré, ça reste l'iPad.
L'iPad?
Ouais, même si le pauvre, maintenant, il est complètement obsolète, il rame, et il sert plus qu'à faire du solitaire. Mais ouais, ça reste mon appareil favori, je crois. Ouais.
D'accord. Et donc, qu'est-ce que vous trouvez chez ce produit? C'est vraiment ses atouts.
Il est léger, il est pratique, il est facile d'utilisation, on l'ouvre, bam, il est allumé, on le referme, pas besoin de le charger pendant la semaine. Ouais, ça... Voilà, ouais, facilité d'utilisation, grande autonomie, visibilité extrême au niveau de l'écran.
D'accord, bon, on voit vraiment que ce produit vous tient à
Ouais,
cœur.
c'est celui que je préfère, je crois.
Donc on peut aussi dire que Apple est votre marque préférée, ça se sent dans votre voix, dans vos émotions. Mais vous nous avez cité en défaut que les prix des produits qui étaient excessifs. Ça vous gêne pas? Parce que vous possédez quand même pas mal de produits Apple. Donc si les prix sont excessifs et que vous avez quand même 12 produits, c'est que ça vous dérange pas trop?
Ouais, ils ont une politique de vente que je trouve exécrable. Cette méthode où on impose par exemple leur connectique non universelle, et puis du coup ils vendent des adaptateurs, ils vendent le custom care, ils vendent l'assistance. C'est très très désagréable pour quelqu'un qui a l'habitude de manipuler lui-même ses produits et de les corriger lui-même. Par contre, je dois vous avouer que des produits Apple, j'ai dû m'en offrir deux sur la douzaine. À chaque fois, c'est de la récup ou des cadeaux. C'est des récupérations d'ordinateurs qui a déjà tourné 2 ans au boulot. Donc, qui n'est
D'accord.
pas non plus des obsolètes pour une utilisation quotidienne familiale. C'est des cadeaux à Noël ou c'est de la famille qui s'est mis en commun pour m'offrir l'iPad par exemple. Donc, si je devais m'en offrir un, je pourrais pas m'offrir tous ces produits. Donc, voilà la raison pour laquelle le prix me dérange, mais me dérange pas.
D'accord.
Vous comprenez?
Donc pour vous, c'est un investissement.
Ouais, grave, ouais. Bah, je pourrais pas
D'accord.
me le permettre.
D'accord.
On est bien d'accord, si je devais m'acheter le MacBook Pro qui est en ma possession, j'aurais pas pu me l'acheter.
Ouais, d'accord, je vois. À présent, est-ce que vous pourriez me citer une marque que vous n'aimez pas?
Alors ça c'est compliqué, une marque que j'aime pas. Ikea.
Ikea?
Ouais, j'aime pas Ikea. Ou j'aime pas Renault non plus, pour changer de secteur industriel.
Et pourquoi vous n'aimez pas Renault?
Bon, c'est un manque d'innovation parfait. Voilà, on vend des voitures, on les vend bien, on fait de bonnes voitures, il n'y a pas de doute là-dessus. Par contre, on a l'impression de voir la même voiture depuis 30 ans, quoi. Enfin, moi je sais que 35 ans. La Clio reste la Clio et le peu d'évolution qu'il y a eu dessus est pas extrême, quoi.
D'accord, donc là on sent que Renault, c'est pas non plus une marque que vous portez dans votre cœur.
Non, ouais, si j'achète une Renault, ce sera pour une voiture de bureau, quoi, je sais pas comment on dit. Mais...
Voiture de fonction.
Voiture de fonction, voilà, ouais, exactement. Non, la Renault, c'est pas pour moi.
Bon, on sent que vous n'aimez pas spécialement cette marque. Si toutefois vous trouvez que cette marque a des qualités, une ou plusieurs, lesquelles seraient-elles?
Ah bah. Je pense qu'on peut dire que Renault est quand même une marque fiable. Elle l'a prouvé, je crois que ça fait 100 ans qu'elle existe, si c'est pas plus. On trouve des moteurs Renault chez Mercedes, on les voit en Formule 1, on les voit sur les rallyes. Je pense pas qu'ils aient à refaire leurs preuves à ce niveau. C'est des moteurs fiables et compétitifs. Ça reste des voitures durables, on voit encore des Super 5 dans la rue ou même des R5 qui roulent toujours très bien. Ils ont été entretenus certes, mais qui roulent très bien. Donc, non, c'est une moteur que j'aime pas, mais qui quand même a des qualités, je pense.
D'accord. Ouais. C'est ni tout blanc ni tout noir.
Oui, oui, heureusement. D'accord. Ouais. C'est pas une Trabant, quoi.
Ouais. Donc, selon vous, quels seraient les défauts que vous n'aimez pas, par contre, vraiment chez Renault?
Bon, je vais me répéter, mais je dirais le manque d'innovation.
Oui. On
Et puis, face à la concurrence, ils sont vraiment pas au niveau. Ils essayent de faire la Formule 1. C'est pas la première fois qu'ils essayent. Ils sont déjà, je crois, avec deux ou troisième partenaire, puisqu'il y a eu Renault Benetton, Renault Williams. Là, je crois que c'est encore un troisième partenaire, j'ai pas retenu le nom, mais bon, bah, c'est pas leur truc, mais ils réessayent à chaque fois. Alors, je peux pas dire que ce soit très très brillant, et... malgré leurs essais. Hein. Et puis, il y a certains concurrents pour le même tarif ou le même gamme qui font bien mieux au niveau de l'innovation. Des voitures aussi fiables, aussi de bonne qualité, et qui pour autant sortent un petit peu plus du lot. Si on prend des Ford, si on prend peut-être pas Peugeot, mais. Il y a d'autres marques européennes qui savent faire aussi bien que Renault dans la même gamme de tarifs. Hein.
D'accord. Et donc, selon vous, Renault devrait plutôt améliorer ses produits ou alors baisser ses prix, histoire d'attirer un petit peu plus de clientèle? Si vous, il devait vous conquérir, qu'est-ce qu'il devrait faire? Améliorer les produits ou baisser les prix?
Améliorer le produit sans toucher aux tarifs. S'ils veulent continuer à faire des voitures... sobre, peut-être descendre un peu le tarif, mais pour moi, m'attirer en tant que client, ouais, ils devraient améliorer un peu mieux leurs produits.
D'accord. Donc pour le moment, c'est pas spécialement le prix qui vous rebute, c'est plutôt l'esthétique. C'est
non,
plutôt...
non, je trouve que le prix est justifié par rapport à la voiture qu'ils nous vendent. Maintenant, voilà, il y a de la concurrence à côté qui sait faire mieux pour le même prix.
D'accord.
Donc c'est pas que le prix est injustifié, il est pas trop cher pour ce qu'ils vendent, c'est juste que ils se contentent du minimum, quoi. Ils savent que ça marche, donc du coup, ils l'épuisent jusqu'à la dernière minute.
Très bien. Est-ce que vous, personnellement, vous possédez une voiture?
Oui.
Et qu'est-ce que vous avez comme véhicule, en fait?
Alors, je loue une Mercedes Classe A.
En location, d'accord. Ouais. Et pourquoi préférer cette marque, Mercedes, à Renault?
La réputation, la fiabilité, la qualité des composants, la qualité d'assises, hein, n'a rien à voir avec celle d'une Renault, par exemple. C'est l'air bête comme ça, mais... L'assise le fauteuil de la Mercedes est vraiment un fauteuil et non pas un siège posé derrière un volant. Ça fait beaucoup déjà quand on conduit. Et puis la finition, l'intérieur, l'accueil en magasin, le retour après-vente quand on a un souci, la réputation allemande aussi, il joue beaucoup. Voilà.
D'accord, donc vous êtes plutôt satisfait de ce véhicule et de
l'avoir en général. Oui, oui. Puis le fait de l'avoir en location permet de le rendre... régulièrement pour opter pour un nouveau véhicule, on évite les problèmes d'obsolescence, on évite les problèmes de revente. C'est un budget qui finalement est un budget qu'on pourrait mettre dans un crédit, et si on devait renouveler la voiture à la fin du crédit, ça reviendrait à peu près au même. Donc je suis parti en tête d'avoir un budget à dépenser tous les mois si je veux une voiture, et si je le dépense pas, j'aurai pas de voiture.
D'accord. Alors je souhaiterais aborder avec vous la notion d'arrogance, c'est-à-dire qu'en fait parfois on dit d'une marque qu'elle est arrogante. Comment comprenez-vous cela?
Bah là, c'est difficile, je sais pas trop. Qu'est-ce qu'on entend par une marque arrogante?
Eh bien, d'une autre manière, comment pourriez-vous définir ce que serait pour vous une marque arrogante?
Je dirais une marque perçue comme arrogante serait une marque qui discrimine le consommateur, qui fait pas attention à la concurrence.
Donc, qui discrimine le consommateur. Est-ce que vous auriez des exemples de marques qui, selon vous, pourraient être qualifiées d'arrogantes?
C'est pas évident. On pourrait citer Samsung
Samsung.
Pour l'électronique et la nouvelle technologie. On pourrait citer Nike pour vraiment parmi les marques les plus connues. Et puis Ferrari.
Ferrari aussi?
Ouais. Dans le monde de l'automobile, ils sont pas mal. Ouais.
Et pour ces exemples de marques que vous venez de me citer, est-ce que vous pourriez me dire ce qui fait d'elles des marques arrogantes?
Samsung, c'est un petit fait réel qui est arrivé il n'y a pas si longtemps. Ils ont mis en vente des appareils avec une batterie qui était défectueuse, qui n'était pas fabriquée par leurs soins, mais ils les ont incorporés dans leurs appareils électroniques. Ils ont eu des problèmes de surchauffe, des modèles qui ont brûlé instantanément après une surcharge. Et puis, ils ont rappelé le modèle dans certains pays, mais pas dans d'autres, en oubliant que leur appareil avait été distribué sur le monde entier avec le même type de batterie et pas simplement dans un secteur du monde. Mais certains pays n'ont pas eu le droit au rappel, tel que l'Europe l'a connu par exemple. L'Europe s'est vu rappeler tous les modèles de cette gamme, alors qu'en Chine, ils les ont laissés sur le marché, alors que les appareils avaient le même défaut, c'est-à-dire que comme si les Chinois n'avaient pas ce problème, alors qu'ils l'avaient autant que des Français ou des Américains. Je trouve ça un peu déplacé, un peu arrogant de laisser une partie de la clientèle sur le côté sous prétexte que ce n'est pas celle qui va dégager le plus de marge. Pour Nike, je dirais que Nike c'est compliqué, mais j'ai un bon exemple en tête, c'est que je vois des Nike Air Max depuis que je suis tout petit. Le modèle n'a pas changé. C'est juste des couleurs qui changent d'année en année. Depuis que je suis tout petit, c'est des Chinois qui les fabriquent. C'est des petits Chinois, c'est pas forcément des belles entreprises comme essayer de mettre en place Apple. Même si travailler en Chine, à mon avis, n'est pas très très sympathique. Et là-dessus, donc, je pense que la marge est amplement dépassée, les bénéfices sont là, les actionnaires sont contents. C'est pas pour autant qu'ils vont essayer de relever ces usines en Chine et qu'ils vont essayer d'améliorer le confort des travailleurs, malgré que ces travailleurs contribuent au succès financier de Nike et de ses actionnaires. Je trouve ça
D'accord.
aussi très arrogant, très déplacé de continuer à faire du chiffre sur un modèle qui existe depuis sûrement 50 ans, toujours autant de fric. Et ne pas faire un geste pour les gens qui fabriquent ce modèle. Et puis pour revenir à Ferrari, c'est vraiment un autre concept. Je les trouve arrogants dans le sens où ils continuent à faire de très bonnes voitures. J'adore les Ferrari. Ils laissent de côté la concurrence. La concurrence fait des voitures très bien, voire même beaucoup mieux, plus rapides, plus puissantes, pas forcément plus jolies, ça dépend du point de vue. Mais Ferrari s'en fout, ils sont arrogants, ils sont là, ils savent qu'ils ont un savoir-faire, ils savent faire de la voiture et ils savent les vendre et ils continuent à le faire. De manière un peu arrogante, je dirais, finalement, puisque quoi qu'il se passe chez Bugatti, chez Lamborghini, quoi qu'il se passe dans le domaine de la Formule 1 ou des autres voitures de luxe, Ferrari reste Ferrari, il garde la tête haute et voilà. Et je trouve que c'est un côté de l'arrogance, c'est pas forcément méchant, l'arrogance, c'est pas forcément discriminer quelqu'un, c'est aussi avoir la tête hors de l'eau et garder le cap sur ses idéaux, pas forcément suivre comme un mouton le marché. Et en ça, Ferrari est très fort. Quoi qu'il se passe autour d'eux, c'est pas grave, ils ont une ligne de conduite, ils la suivent et ils le font bien.
D'accord, donc d'après ce que vous venez de me dire, selon vous, quelles seraient les principales caractéristiques d'une marque arrogante? Parce que là, vous m'avez cité les produits désuets de Nike, toujours le même produit, la ligne de conduite de Ferrari. Donc pour vous, quelles seraient les principales caractéristiques d'une marque arrogante?
La première, je dirais, c'est se moquer de la concurrence. La deuxième, c'est ne pas prendre soin de son client. Et la troisième, ça sera continuer malgré tout à faire du profit, malgré l'opinion publique, malgré la mauvaise opinion publique que cela peut générer. Voilà, ça serait pour moi les trois points qui me viennent comme ça à l'esprit.
D'accord. Donc, en ayant caractérisé ces marques arrogantes, qu'est-ce que vous y voyez comme avantage ou bien comme défaut à être arrogante?
Alors une marque qui conserve ses convictions et qui ne se remet pas en cause peut à la fois réussir hautement, comme Ferrari l'a réussi à le faire, ou peut très vite chuter et perdre du terrain. Alors j'ai pas d'exemple en tête, mais on a tous connu des marques qui ont grimpé très fort et qui n'ont pas fait d'efforts et qui sont redescendues aussi vite et qu'on ne connaît plus aujourd'hui. Des marques de fringues essentiellement, chaussures, tout ce qui est un peu fashion. Ouais, c'est ce que je dirais, voilà, une marque arrogante peut réussir à avancer en gardant ses convictions sans se remettre en cause, mais faire attention, tout le monde n'est pas Ferrari non plus, tout le monde n'est pas Apple, quoi. Même
D'accord.
d'autres, ouais.
Donc ça a des avantages, ça a des défauts. Mais donc ça pourrait avoir un intérêt d'être arrogante, du coup, selon vous.
Oui, je pense que oui, ça peut avoir un intérêt quand c'est bien fait. Ça peut améliorer la réputation d'une marque. Ça peut, comme ça peut la démonter d'ailleurs. Ça va permettre de démontrer les convictions d'une marque, qu'elle est capable de suivre une ligne de conduite qu'elle s'est imposée. Ouais, ça peut avoir. Je vois que c'est deux intérêts comme ça, mais je pense pas que ce soit quelque chose de mal, entre guillemets. Après, il faut juger, il faut faire attention à ce qu'on fait.
D'accord. Donc, c'est pas quelque chose de bien, c'est pas quelque chose de mal.
C'est avec parcimonie, petite pincée par-ci, par-là, savoir faire le buzz quand c'est le bon moment, savoir être tranquille quand le marché le nécessite. Voilà, l'arrogance, c'est quelque chose à manipuler avec précaution. Faut pas être tout le temps arrogant, mais il faut savoir être là quand il faut se montrer.
Donc, vous venez de me dire que, à l'instant, qu'il faut savoir, si je résume, savoir être arrogant au bon moment.
Ouais, c'est comme ça que je le dirais, pour
donc,
résumer. Ouais.
Selon vous, est-ce que c'est une prise de risque que de donner une image arrogante à une entreprise ?
Alors, si l'arrogance reste par pincée, saupoudrée sur un marché éclectique, je pense pas. Mm-hmm. Par contre, l'arrogance indéfiniment sur un marché ouvert avec beaucoup de concurrence, je pense que c'est vite fait de la perte de marché, de la perte de consommateurs, de la perte de confiance, un gros soulèvement de mécontentement. Ça peut vite faire dégringoler une réputation et vite faire dégringoler une marque. Ouais, voilà, faut y aller, à mon avis, doucement, avec se saupoudrer par pincée et surveiller le marché et savoir se montrer au bon moment.
D'accord. Donc, désormais, est-ce que vous pourriez me citer une marque qui, au contraire, vous aurait paru humble, modeste, non arrogante dans ses actions ou dans ses discours?
Pas évident, mais je pourrais citer un groupe que sûrement personne ne connaît, qui est pourtant qui s'appelle Simpress, qui est un groupe d'actionnaires, ouais, qui a racheté pas mal de marques tout en restant discret. Ils ont racheté toutes les grandes marques du domaine du web-to-print. Ils ont fait des millions de chiffres d'affaires et ils restent dans leur coin, ils sont toujours en train de se remettre en cause, ils font attention à ce que leur marque soit mise en évidence, à ce que les parts de marché ne soient pas perdues. Et je ne sais pas si c'est vraiment de l'humilité, mais pour moi ça reste une marque humble qui reste discrète, qui sait faire un petit peu de pub au bon moment sur les marchés de l'imprimerie, sur les salons, sur lorsqu'une nouvelle technologie arrive, mais qui derrière va rester quand même en recul, sans se montrer, sans essayer d'en faire plus que nécessaire.
D'accord, donc pour vous, Simpress, elle fait preuve d'humilité dans ses actes depuis qu'elle existe.
Ah oui, bah ouais, c'est un groupe qui a été quand même fondé par Vistaprint au départ, par un patron qui lui était hollandais mais qui a lancé sa boîte à Paris. Et une fois que sa boîte était arrivée au plus haut du marché, plutôt que d'essayer d'améliorer encore les choses, il a préféré fonder un groupe financier pour racheter les concurrents, un peu à la mode de Volkswagen, qui plutôt que racheter les concurrents pour imposer sa marque, a racheté les concurrents pour ne pas être embêté par les concurrents. Simpress fait pareil, ils ont racheté Vistaprint, Exaprint, Germain Druck, enfin, je ne peux pas vous citer toutes les marques, ils ont un portefeuille de 12 ou 15 marques différentes dans le web-to-print. Chacun sa part de marché, ils arrivent à ne pas s'auto-concurrencer, et du coup ce groupe est leader au monde sur le web-to-print, tout simplement en étant propriétaire de toutes les marques sur la planète. Et effectivement, puisqu'ils sont au Brésil, ils sont en Chine, ils sont en Europe. Ils sont au Canada, ils sont aux États-Unis, ils sont pas en Russie encore, ils sont en Australie, ils sont en Inde, ils sont pas encore en Afrique, ils sont en Turquie, je crois. Ouais, donc oui, ils ont.
Ils ont une portée mondiale.
Ouais, c'est le leader au monde sur le web-to-print, simplement parce qu'ils ont acheté toutes les marques. En fait, Simpress n'est pas un imprimeur, c'est simplement un groupe qui achète les marques pour avoir un portefeuille de marques.
D'accord.
Et pour centraliser l'argent sur un point commun.
Et donc, vous m'avez dit que Simpress a un rayonnement mondial. Est-ce que pour vous, une marque, pour être développée à cette échelle, pour qu'elle soit mondialement connue, est-ce qu'elle doit faire preuve d'humilité?
Ah, je pense que oui, là, c'est un bon exemple. D'être resté tranquille dans son coin, de ne pas avoir montré que c'était devenu les plus forts et les plus grands. Ils ne se sont pas vantés d'être ce groupe le plus fort et les plus grands. Ils ont simplement racheté des marques petit à petit, se sont arrangés avec les patrons tranquillement autour d'un café, d'un croissant. ils ont racheté les entreprises sur différentes bourses au monde. Parce que je sais qu'Exaprint a été racheté sur le CAC 40, Vistaprint a été vendu sur le Nasdaq. Enfin voilà, mais c'est toujours fait de manière très discrète, très simple. C'est pas des paillettes, c'est pas des strass, c'est pas les limousines dans la rue. Et ça se passe très bien, je veux dire, les concurrents pensent que chaque marque est autonome, alors qu'en fait derrière il y a un gros boss qui tient les ficelles de tout le monde en même temps. Et je pense que sans ce côté on est discret, on achète et on se tait, peut-être que les concurrents auraient fait pareil et peut-être que Cimpress n'aurait pas pu devenir le leader comme il est aujourd'hui. Il y aurait sûrement eu quelqu'un de plus riche que le patron initial qui ait eu la main, qui voit l'idée grossir et qui se dit bah, moi j'ai plus d'argent, je vais pouvoir investir plus vite et donc devenir plus gros que Cimpress avant lui. Donc le côté humilité et discrétion, à mon avis, est important, surtout lors de la phase de développement. Tout autant que l'arrogance, parce que si Cimpress n'avait pas su se remettre en cause sur certains achats ou sur certaines décisions, ils n'en seraient peut-être pas là aujourd'hui. Par exemple, avec Exaprint, quand ils ont racheté Exaprint, Exaprint c'est une maison mère en France, trois filiales en Europe, une en Italie, en Espagne, en Angleterre. Et il a fallu revoir, ils pensaient transformer Exaprint comme est devenu Vistaprint, quatre sites de fabrication, une maison mère en centre. Sauf qu'en fait, c'est pas comme ça que ça se passe. On se travaille avec des artisans, avec un réseau d'ateliers de 80 partenaires, plus des filiales déportées dans des langues étrangères. Et ce modèle n'était pas connu de Cimpress. Cimpress a voulu l'écraser. Pendant 6 mois, ils ont travaillé, cherché à comprendre pourquoi on ne travaillait pas comme eux. Finalement, ils sont revenus en arrière en se disant on va pas écraser cette méthode, on va la laisser tourner. Et si elle marche chez eux, il n'y a pas de raison qu'elle ne marche pas dans un autre domaine. Donc ils sont en train de se demander si notre méthode, ils vont pas réussir à la déployer aux États-Unis ou en Hollande ou en Chine. Ils étudient le besoin et maintenant qu'ils ont différents sites de fabrication complètement différents, des manières de fabriquer complètement différentes, mais qui pour autant marchent tout aussi bien, ça leur fait plusieurs solutions pour quand ils, par exemple, ils rachètent une entreprise qui bat de l'aile, et ben ils vont pouvoir leur donner la solution A, la solution B, la solution C et laisser au choix à l'entreprise de choisir une solution ou une autre pour se relever.
Ouais. Très bien. Donc, si vous pouviez me donner une définition de l'humilité, laquelle serait-elle ? En quelques mots, hein,
ouais,
ouais. Simplement.
Oh, c'est pas facile, ça, comme question. Je dirais le soin et l'écoute du client. Mm-hmm. Une des premières valeurs quand on fait du commerce, je pense. Et puis, la remise en cause permanente, je pense que c'est quelque chose d'important.
D'accord. Donc, vous m'avez parlé de Cimpress. Au sein de cette entreprise, est-ce que vous pourriez donner des exemples de marques humbles ?
Oui, oui. Exaprint reste une marque discrète. Hein. Elle ne fait pas de la pub, elle ne fait pas de tapage. Enfin, elle fait de la pub, mais on ne la voit pas à la télé. Mm-hmm. Vistaprint reste malgré tout une marque que je trouve considère humble, malgré cette publicité tapageuse à la télé et à la radio que je déteste. Mais derrière, il y a une approche vers le client qui est totalement différente comparée à celle qu'on peut connaître en Europe et qui, à mon avis, leur permet de vivre encore aujourd'hui. Et puis Pixar, une marque italienne totalement inconnue et qui pourtant fabrique pour beaucoup, beaucoup de marques de vente en ligne. On ne le sait pas, c'est une grosse usine en Italie qui fait que fabriquer. C'est une usine à fabriquer du papier et fabriquer des produits imprimés. Mais derrière, il n'y a pas de marque, il n'y a pas de nom connu. C'est une usine, voilà. Et je pense que Cimpress a bien fait de racheter cette usine et de la convertir en marque parce que du coup on sait qu'on fabrique PixArt, même si derrière le produit est vendu Exa, est vendu Vista, est vendu Truc, peu importe.
D'accord, donc pour vous, ces trois marques, Exaprint, Vistaprint et PixArt, si je me souviens bien, ce sont des marques humbles. Est-ce que vous pourriez me dire en quoi vous les qualifiez d'humbles ?
Ah ben...
Par quelles actions elles se rendent humbles, tout simplement ?
On va dire qu'Exaprint est... pas trop tapageur, ouais. Exaprint, c'est prendre soin de son client, c'est faire attention à ce qui se passe sur le marché. De temps en temps, elle est un petit peu arrogante, elle fait un peu de pub par-ci par-là sur les sites de graphisme, montre qu'elle n'est pas plus chère qu'une autre, montre qu'elle a quelques avantages chez Exaprint. Vista, bon, comme je le disais, en mon sens, un customer care, comme ils disent, un centre d'assistance clientèle qui est quand même pas mal. Malgré de nombreux appels tous les jours, il y a peu de mécontentement, ce qui est très très étonnant, parce qu'il y a beaucoup de produits imprimés dont les gens ne sont pas contents, mais qui pour autant trouvent satisfaction une fois qu'ils ont eu leur premier contact téléphonique ou par email, ce qui est quand même un bon point, puisque finalement les clients recommandent une deuxième fois malgré l'insatisfaction à la première. Et puis Pixar, le côté le côté soutien aux troupes, le côté nous on est une usine, si vous avez besoin, envoyez-nous vos commandes, nous on va les fabriquer, on enverra dans les délais, on s'assurera que le client ait signé le colis au retour, que tout soit réglé en temps et en heure. Donc voilà, en mon sens, trois qualités que peut. Pas trois qualités, mais trois témoignages d'humilité dans ces marques.
D'accord. Tout à l'heure, vous m'avez parlé, dans les caractéristiques d'une marque humble, de soins du client. Est-ce que pour vous, l'humilité, ça se résume principalement au soin et au respect du client, ou est-ce que pour vous, il y a quelque chose d'autre qui se cache derrière ça?
Ah oui, je pense, oui. Pour moi, le soin du client, c'est la priorité quand on fait du commerce, mais c'est pas la seule chose à prendre en compte. Il faut savoir où en est la concurrence, voir si les produits qu'on vend ne sont pas obsolètes, vérifier que le marché du commerce attend bien les produits qu'on vend. Si on vend de la carte de visite, alors qu'en ce moment la mode c'est la carte postale, on se trompe un peu. Par exemple, l'été on vend beaucoup de moins de cartes de visite, mais beaucoup plus de cartes postales. L'hiver, contrairement à ce qu'on pense, on vend de la carte postale, mais déguisée en forme de carte de vœux. Les cartes de visite, ça marche beaucoup en septembre, en fait, quand les administrations réouvrent, quand les salons se font. Si on reprend Ferrari, y a la concurrence, mais eux, ils continuent, ils ont leur ligne de conduite, ils font comme ils veulent, en même temps, ils savent que la voiture de luxe, il y a un certain marché, il y a certaines, comment dirais-je, qualités à avoir. Ils suivent le marché, je ne sais pas comment expliquer. Par exemple, Ferrari, ils font plus des voitures en bois, sans GPS et sans électronique. Ils continuent leur voiture, ils s'en fichent de savoir ce que fait la concurrence, mais pour autant, ils suivent la technologie, ils suivent l'évolution du monde. Et malgré qu'ils restent des artisans, ils savent évoluer avec leur temps. C'est pas forcément. Pour moi, l'humilité, c'est pas simplement le soin du client. C'est tout un tas de choses, même si pour moi, le soin du client, c'est quand même l'une des priorités à avoir.
Très bien. Du coup, quels seraient les avantages d'une marque humble? Ou même ses défauts, si vous en trouvez?
Un avantage, on va avoir la satisfaction du client, sa fidélité. Par contre, il faut se méfier parce que ça peut générer un portefeuille de clients très vieillissant et qui s'essouffle. Parce qu'au bout d'un moment, le client, il a beau être fidèle. Il faut constamment renouveler, ramener du nouveau client pour essayer de vendre des nouveaux produits. Pas s'asseoir sur un portefeuille de clients existant pour pouvoir se développer et pouvoir grossir plus rapidement.
Selon vous, quel serait l'intérêt pour une marque d'être humble?
La réputation. La marque va acquérir une bonne réputation.
Et concernant la réputation, est-ce que vous pensez qu'il existe d'autres moyens d'améliorer sa réputation pour une marque que le fait d'être humble?
La fiabilité d'une marque. Quand on voit que depuis des années, ils font des produits de qualité, des produits bien finis, qui savent s'occuper du client en cas de problème ou pour simplement renseigner un client quand il a un problème, quand il a des questions. Sa présence sur le marché, c'est une chose importante. Et puis prendre la période en cours, essayer de rester dans l'air du temps et pas travailler avec des matériaux qu'en 50 ans, en 2010 par exemple. Si on prend les voitures, une des particularités en ce moment, ça va être la pollution. Donc là, en ce moment, l'air du temps, c'est de faire dans la voiture électrique, c'est de faire dans le moteur innovant, minimiser la consommation de carburant, minimiser l'émission de CO2. Certaines marques font un gros effort et suivent ce courant. D'autres s'attachent difficilement. Et je crois que ceux qui suivront pas ce courant auront du mal à passer le cap d'ici 20 ans, quoi.
D'accord. Et à contrario, on a parlé des avantages. Quel danger y a-t-il selon vous pour une marque à être humble? S'il y en a.
Des fois, rester trop discret, trop humble, la concurrence peut passer devant, peut prendre la tête du marché. Parfois la touche d'arrogance est importante parce que une marque qui reste trop discrète et qui prend jamais de risques, risque justement de ne plus conserver la tête du marché et de passer en deuxième, voire au fond du tableau. C'est comme l'arrogance, c'est avec pincée, savoir être discret au bon moment, savoir être arrogant au bon moment.
D'accord. Et donc, est-ce que vous pensez que la période de remise en cause dont vous m'avez parlé, d'une marque connue mondialement, peut durer un bon moment.
Ouais, je pense que oui. Quand on prend l'exemple d'Apple, Apple a construit des ordinateurs pendant quelques années, je pourrais pas dire combien. Des ordinateurs qui étaient très spécialisés pour les professionnels des arts graphiques, pour les photographes, pour la vidéo. Ça n'a pas fait un grand carton. C'était de bons ordinateurs. Les professionnels ne voulaient pas entendre parler autre chose que d'Apple. Puis la marque s'est remise en question. Steve Jobs est arrivé. Il y a eu un moment où on n'entendait plus parler d'Apple. Il n'y avait plus d'évolution pour les professionnels. Il n'y avait plus aucun dynamisme. Puis Steve Jobs, en quelques années, a su réinventer l'utilisation du Mac tout en conservant cette branche des professionnels. Et là, ouais, je pense que c'est un bon exemple de marque qui a su rester dans son coin, se remettre en cause, rester tranquille, rester discret, pour ensuite avoir un peu de dose un petit peu d'arrogance avec l'iMac, l'iPod, le premier iPhone, enfin voilà, tous ces petits trucs qu'au début personne n'y croyait, qui finalement sont devenus des objets presque standards dans notre quotidien. L'iPod, au début, vendre des MP3 sur Internet, tout le monde rigolait. Aujourd'hui, on se voit difficilement aller acheter un CD à la Fnac. Voilà, un iPhone sans un écran couleur, sans un clavier tactile, il en existe encore, mais ça fait sourire. Voilà, donc. Pourtant, c'est pas le premier à avoir sorti un téléphone avec un écran tactile. Avant Apple, il y avait les BlackBerry avec un stylet et un mini clavier. Et ben, ça n'a pas fait fureur parce que le coup du mini clavier, les gens, ils avaient tous des gros doigts. Le stylet à sortir à chaque fois, bon. Voilà, pour moi, un bon exemple.
Donc, pour vous, Apple a su être humble au bon moment. Est-ce que vous auriez une idée de comment on peut aider les marques à être humbles et ainsi avoir un tel succès comme Apple a connu?
Bah, je pense que les marques devraient faire des enquêtes publiques avec des sondages, rester à l'écoute de la concurrence, à l'écoute du marché, veiller à maintenir le niveau de qualité d'un produit ou d'une réputation par exemple. Hein. Quand on a la réputation de faire du bon produit, il faut continuer à le faire. Il ne faut surtout pas baisser les bras et commencer à sortir des produits low cost. Enfin, pas forcément low cost, c'est pas ce que je veux dire. Mais des produits moins bien finis ou avec des composants d'une technologie obsolète ou que sais-je, mais voilà, ce genre de choses.
D'accord. Donc on a parlé d'humilité, on a parlé d'arrogance. Est-ce que vous pensez qu'une marque a davantage intérêt à faire preuve d'arrogance ou au contraire d'humilité?
Ouais, ni l'un ni l'autre.
Ni l'un ni l'autre?
Chaque moment à sa période, à la marque de veiller à être dans la bonne condition au bon moment. Quand il faut être meilleur que les autres et qu'il faut savoir faire preuve d'un peu d'arrogance, être un peu tapageur, faire de la pub, sortir un produit totalement innovant même s'il ne se vend pas, ça peut arriver. Mais montrer qu'on sait innover. Comme à certains moments, c'est pas le moment, la crise est là, le peuple n'a pas d'argent, on n'a pas le sourire. C'est pas le moment d'aller sortir des produits innovants coûtant les yeux de la tête. À ce moment-là qu'il faut rester discret, faire tourner la recherche et la technologie et attendre des jours meilleurs pour montrer qu'on est capable d'eux. C'est un savant mélange entre les deux, c'est pas ni l'un ni l'autre. Dans mon sens, c'est pas ni l'un ni l'autre.
D'accord. Et vous, personnellement, est-ce que vous pensez en général être plus attiré par des marques arrogantes ou par des marques humbles? Et en fonction de votre réponse, pour quelle raison?
Bon, ni l'un ni l'autre, moi je m'attache un peu à la réputation, mais je fais pas attention à savoir si elle discrimine quiconque, si au contraire elle reste discrète pendant les périodes difficiles. Moi je m'attache surtout au produit. Je regarde s'il est bien fini, s'il est de qualité, s'il va durer dans le temps, s'il n'est pas obsolète au moment de sa sortie, si c'est pas un produit innovant qui finalement n'ira nulle part parce que personne n'y croit. À ce titre-là, il y a le Laserdisc de chez Philips. C'était super innovant, sauf que personne n'y a cru. Et le produit était mort à sa sortie. Il y a très peu de gens qui connaissent le Laserdisc.
Je vous avoue que moi-même, je ne connais pas.
Non, bah, c'est comme un vinyle en 33 tours, c'est très grand. Et c'est un CD d'une taille d'un grand vinyle. D'accord. Ça n'a jamais marché. C'était une bonne idée parce que c'était la capacité d'un DVD. On pouvait mettre jusqu'à 3 heures de concert dessus. Mais ça a coûté excessivement cher. Le support n'était pas pratique et ça fait un flop. Mais ça a laissé l'ouverture derrière pour le CD, que tout le monde connaît. Donc comme quoi, il fallait pas trop se dépêcher et vérifier que la concurrence suit le pas ou non. Donc j'en reviens à ce que je disais, je m'attache plus au produit qu'à la réputation de la marque qui le produit, qui le fabrique.
D'accord, très bien. Et dans leur communication, quelle différence y a-t-il entre le discours d'une marque arrogante et celui d'une marque humble ?
Je sais pas trop. Je dirais la présentation du produit.
La présentation du produit.
Ouais, la manière de le montrer. Par exemple, Apple aime bien faire des événements spéciaux en public sur une scène. Certains vont surtout pas faire de communication, vont directement balancer le produit et mettre de la pub à la télé. Donc je sais pas, je dirais que la grosse différence c'est la manière de présenter le produit.
D'accord. Et donc d'après les exemples que vous avez cités précédemment, quelle différence y a-t-il entre la présentation de produits chez Samsung et de chez Cinepresse ?
Ben, un produit Samsung, sa sortie est très tapageuse, on voit beaucoup de pubs à la télé, dans les journaux, dans la presse spécialisée, à la radio. Mm-hmm. On en bouffe à tous les recoins. Cinepresse, pas du tout. Cinepresse va proposer sur son blog ses news au fur et à mesure, va mettre quelques nouvelles sur les réseaux sociaux, mais va pas non plus étaler son nouveau produit. Par exemple, si Cinepresse se met à vendre de la carte de visite avec un vernis 3D chez Exaprint, on va pas voir la pub sur l'ensemble des sites spécialisés dans la carte de visite, dans le graphisme. Il y a une petite news par-ci par-là sur les réseaux sociaux qui parfois suffisent à attirer suffisamment de monde. Ça fait un peu bouche à oreille. Pour moi, elle est là la grosse différence Samsung contre Cinepresse. Vraiment deux manières de présenter les produits totalement différentes.
D'accord. Et selon vous, donc il y a deux discours. Lequel de ces deux discours est le plus vendeur ? Celui de Samsung, celui de Cinepresse ?
Ouais, ni l'un ni l'autre. Un bon produit reste un bon produit et on peut le distribuer avec le bouche à oreille comme fait Tupperware. Tupperware vend des boîtes depuis je sais pas combien d'années. J'ai jamais compris comment, on voit jamais une pub. Ma mère en a plein les placards et elle veut devenir vendeuse Tupperware. Donc là, success story du Tupperware, quoi. On n'a jamais vu une pub à la télé, ni sur une affiche, et pourtant la marque on la connaît tous. De l'autre, un produit de qualité reste un produit de qualité qui passe à la télé ou qu'on en parle entre grand-mères. Un bon produit reste un bon produit et quand tout le monde en parle et que tout le monde en est content, c'est ça qui fait la force de la marque.
Très bien. Donc Florian, l'étude touche à sa fin. Je souhaite vous remercier pour cet entretien. Est-ce que vous souhaiteriez ajouter quelque chose ou faire une remarque sur l'entretien que nous avons passé ensemble ?
C'est pas évident comme sujet. Marque humble, marque arrogante, c'est pas quelque chose que je qualifie comme ça tous les jours. Moi je parle souvent des produits et puis pour moi un produit est attaché à une marque. Et pas une marque est attachée à un produit, donc j'étais un peu surpris par votre questionnaire, parce que c'est surpris dans le bon sens, hein, c'est des questions que je me pose pas. Mm-hmm. Mais sinon, rien de spécial. Écoutez, tout va bien.
Bon. Et je vous remercie encore pour
avec plaisir.
Entretien. Bonne journée.
À bientôt.